soyez les bienvenus dans la bande. Oui, soyez, comme soyeux. Soyez les bienvenus dans la bande originale avec Leïla Kadour-Boudali.
Oui, bonjour à tous.
Thomas Wiesel.
Bonjour.
Albert Algou.
Bonjour.
Tout à l'heure, il y aura Tanguy Pastureau également, bien sûr, à 12h10. Daniel Morin.
Ah, bravo Daniel.
Et nos invités sont Claire Nadeau et Philippe Lelièvre.
Ouais, ouais.
Allez Claire. Soyez les bienvenus. On a l'impression que Philippe Lelièvre se réveille. Claire Nadeau et Philippe Lelièvre jouent une pièce qui devrait être parrainée par France Inter, parce qu'elle s'appelle Non à l'argent. Une pièce signée de Flavia Coste.
Dit pas cette année.
Et nous allons en parler. Mais quoi ? Non à l'argent ? Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie
c'est
que l'argent.
Non.
Le point de départ étant, parce que le casting, on va quand même rappeler le casting, il y a
Pascal
vous
Légitimus.
Deux, évidemment, Julie de Bonnat. Et Pascal Légitimus. Et Pascal Légitimus a gagné au loto. Il a gagné 160 et quelques millions.
162 exactement, c'est important.
Non, c'est pas important puisqu'il n'en veut pas de cet argent. Il dit non à l'argent. Et vous, qui êtes son meilleur ami, Philippe Lelièvre, vous jouez Étienne. Claire Nadeau, vous jouez le rôle de sa maman.
Oui, c'est étrange.
Les deux. C'est possible.
Mais tout est possible.
Tout est possible.
On peut très bien. On y croit.
On peut très bien avoir un enfant à 10 ans.
Faire des trucs invraisemblables au théâtre.
Ça dépend dans quel pays. Donc vous. Les deux, de chacun de son point de vue, ne comprennent pas ce qui se passe.
Ben, je sais pas, vous comprendriez, vous ?
Que quelqu'un refuse 160 millions d'euros ?
Non, il ne comprendrait pas.
Oui. Non. Mais nous non plus, en fait, on comprend.
Et ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du loto ?
Ah, ça, je ne saurais pas dire. Je sais pas.
Non, parce que c'est ce qui est écrit dans votre bande-annonce sur Internet.
Ah bah oui, les bandes-annonces.
J'y crois, moi. C'est écrit, j'y crois. Non, mais ça va faire naître des tensions, en fait.
Ah ben un petit peu, oui, quand même, parce que son argument étant qu'on est tellement bien ensemble, qu'on s'aime...
Un argument philosophique, finalement.
Oui, finalement, c'est que l'argent risque de tout changer.
Et de gâcher les relations
exactement.
Entre vous.
Et comme par hasard...
Il veut que ça reste comme ça, il le dit d'ailleurs, je veux que ça reste comme ça.
Et puis il s'appuie sur des témoignages où des gagnants du loto ont connu le malheur malgré le gain gigantesque qu'ils avaient gagné.
C'est vrai, il part
du principe que l'argent est source de tensions, de jalousie,
de désamour.
Et donc il se dit, puisque ça va tout foutre en l'air alors que je suis très heureux comme ça, je refuse les 162 millions d'euros.
Et il le dit. Ouais. C'est ça le pire.
C'est-à-dire qu'il nous a.
Toi, tu l'aurais pas dit, toi.
Ah, bah tant qu'à faire, s'il veut que rien ne bouge, et il ne dit rien. Et puis comme ça, il réunit sa femme, qui est sous le même toit. Il invite sa mère, son meilleur ami, et il leur dit à quel point il les aime. Il passe une belle soirée avec eux.
Sans jamais leur dire pourquoi il a.
Il leur dit pas que ce foutu billet est sur le frigo.
Ça aurait fait une moins bonne pièce de théâtre.
C'est vrai. Là, je suis d'accord. Là, c'est sûr qu'il n'y a qu'un seul acte. Pardon, Thomas. Tu as raison.
Pour l'instant, vous êtes dans la phase des répétitions, du travail, puisque tout ça se passera au théâtre des variétés. Ça commence le 22.
Oui, septembre.
Septembre, oui, quand même, oui. Ça, sinon, là, on s'y prendrait tôt. Oui. Ça commence le 22 septembre. Dans cette phase-là, on règle les déplacements, les mouvements, on voit ce qui fonctionne ou pas. Est-ce que on teste les... Je sais pas, ça se teste les
vannes, on ne teste pas parce qu'il n'y a pas de public. Mais on essaye de voir... Et on a la chance, nous, d'avoir un auteur vivant et présente.
Flavia Coste.
Flavia Coste qui peut...
D'autant plus vivante qu'elle est là, en plus. Donc,
elle est présente.
Elle est présente. Même. Elle est vivante et
présente. Et quand on a... Parfois, on bute sur des choses à jouer qui à les lire paraissent fluides. Et puis, à jouer, c'est moins évident. Et donc, on rectifie, on ajuste.
Très à l'écoute, Flavia. On l'a souvent... Parce qu'on ne change pas de notre plein gré, hein, comme ça. On ne décide pas, on l'appelle, en tout
mais
cas.
Mais pourquoi changer, surtout ?
Mais parce que, quelquefois, c'est une création. Et comme son nom l'indique, une création, on crée, on ne l'a jamais fait. Donc tout à coup, on se retrouve devant un petit écueil, un petit problème, une petite inversion de réplique.
C'est quoi un écueil ? C'est quand une phrase n'est pas dans un bon tempo ?
C'est dans le rythme, plus parce que la phrase qui n'est pas dans le bon tempo, ça s'arrange très vite. Enfin, dire à un auteur, est-ce que je peux inverser cette réplique ? C'est pas ça. Mais tout à coup, on se retrouve devant, effectivement, un petit problème qu'on n'a pas ressenti à la lecture. Pourtant, on l'a lu plusieurs fois à la table, parce que ça s'appelle des lectures à la table. Mais dès qu'on se met à jouer, il y a un problème et on essaie de le résoudre.
Il y a une jubilation particulière à incarner un personnage qui n'a jamais été joué.
Oui.
C'est-à-dire
Vous m'auriez posé la question, est-ce que vous jubilez de jouer ? J'aurais dit oui, mais là, en l'occurrence, le personnage me plaît. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'ai accepté la pièce en 2 heures. J'étais en train, je le
dis,
j'étais en train de tailler mes rosiers, on m'appelle, comme quoi, métier de comédien, c'est merveilleux. Je ne faisais rien. Tout à coup, un coup de fil, on me dit, c'est Anouche Sedbon qui met en scène, elle me dit, est-ce que tu lirais cette pièce? Alors, je la lis. Et je la rappelle tout de suite. Enfin, je la rappelle 2 heures après en disant je fais cette pièce.
Et pourquoi Étienne, ce personnage vous a tellement plu ?
Il m'a plu parce que c'est un personnage. Il existe vraiment. Il est un peu drôle. Il me ressemble quelque part. Il est un peu de mauvaise foi. Il est un peu grognon. Il est un peu bougon. Mais c'est un vrai bonhomme. C'est son meilleur ami parce qu'ils ont ensemble un cabinet de...
Claire, Carnado se fout. Muscles.
Mais non, c'est un vrai bonhomme. C'est un bonhomme.
ils ont un cabinet d'architectes ensemble. Et c'est vrai qu'il le porte à bout de bras depuis des années. Et tout à coup, il comprend mal comment ce gars qui a été tenu à bout de bras pendant des années le laisse un peu sur le bas-côté en disant, écoute, on va pas prendre le pognon et on va continuer à galérer comme on le fait depuis.
Oui, parce que ce détail-là est important. Ouais. Ils en ont tous besoin de cet argent. Mais parce tous. Que c'est pas non plus. L'argent va venir poser un problème. 162 millions d'euros, ça va être une catastrophe. Ils sont dans la mouise. Le cabinet d'architecture ne marche pas si bien que ça. Il y a un bébé qui pleure dans la pièce d'à côté. Et Julia de Bona, ouais. Dont j'ai oublié le nom.
Julie.
Qui
s'appelle Claire.
Qui s'appelle Claire.
D'ailleurs, en répétition, c'est très simple.
C'est facile.
Claire.
Oui.
Claire,
voilà, non, c'est l'autre.
Donc Rose est jouée par Claire et Claire est jouée par Julie. Oui. Ouais, bah, voilà. Bravo. Donc tout ça pour dire que ça l'aiderait bien aussi qu'il y ait quelques sous qui rentrent pour soulager, avoir une nounou ou avoir un confort matériel.
De l'argent quoi.
Oui, non mais
c'est elle qui fait tourner,
qui vient enlever la pression quotidienne quoi.
C'est ça. L'épreuve de philo, c'est elle qui fait bouillir la marmite. Voilà. D'ailleurs, elle lui fait sentir plus à plusieurs fois quoi que l'autre, il est un peu dans les nuages, il crée des maisons sur pilotis. Mais ça fait pas bouillir.
Qui ne sont pas vendues,
mais qui sont belles. Moi, en tout cas, je suis amoureux de ces maisons.
Et qui sont des maisons de retraite.
Ouais, voilà.
Oui, des maisons de retraite.
Sur
pilotis.
C'est voilà.
Ce qui peut être dangereux.
Ça dépend. Ça dépend du retraité.
C'est joli. C'est pas pratique.
Bon, on les met là-bas et puis ils peuvent plus ressortir, hein, frère, c'est ça.
Non plus.
Mais ils peuvent retraiter, ça change d'âge.
Au Texas, c'est pas mal en ce moment. Mais bon.
Ils en auraient besoin, les pauvres. Non à l'argent. La pièce est signée par Flavia Coste. Ça sera à partir du 22 septembre au Théâtre des Variétés. Claire Nadeau et Philippe Lelièvre sont nos invités. On va en parler. J'espère que vous avez compris, Maréchal Ganache. Pourquoi ils sont nos invités maintenant.
Mais bien sûr, mon cher Nagui, que je le sais. Je pourrais dire, pour plaisanter, bien sûr, qu'il y a des affinités électives entre les membres de la bande originale et nos invités.
Ah.
Oui, comme naguère, Claire Nadeau, quand elle incarnait Sue Ellen dans le Color Show, Leila doit faire face à de graves problèmes d'alcool. Quant à Daniel Morin, son épouse m'a confié que, dans l'intimité, elle le surnomme le lièvre. Voilà, raison. Facile à imaginer. Pauvre Madame Morin. Mais plutôt que de recourir à ce genre de plaisanterie facile, je souhaite raconter aux auditeurs plus sérieusement, là, et à vos invités, la scène étonnante, déconcertante.
Quoi ?
Stupéfiante.
Non.
Époustouflante.
Non.
J'en ai d'autres. Ahurissante. Non. Pour ne pas dire hallucinante, à laquelle j'ai assisté tout à l'heure dans le bureau de la bande originale. Au moment où j'arrive, poussé dans mon fauteuil par mon fidèle auxiliaire de vie, ding, 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 avec moi au Vietnam, je vois Nagui foncer vers notre rédac-chef, JNB, lequel tout tremblant, tel la fragile gerboise d'une aiguève, voyant fondre sur elle le cruel faucon des pyramides, JNB plonge sous son bureau pour se protéger. Quand je disais que cette scène était hallucinante, c'est que contre toute attente, ce n'est pas pour secouer JNB et le gifler, comme il le fait d'habitude, que Nagui avait foncé sur lui. Non, une fois n'est pas coutume, c'était pour le féliciter. JNB, chantonna Nagui, comme ça quand il est tout seul. N'aie pas peur, sors de là, je ne te ferai aucun mal. Pour une fois, tu as super bien fait en programmant Claire Nadeau et Philippe Lelièvre.
Qui est écrit sur la deuxième page. Hein, c'est pour ça,
voilà, non, c'est que j'avais un petit chat dans la gorge.
Vous savez pas à quel moment tousser.
Émergeant alors de dessous le meuble, JNB, tout en se protégeant la tête comme s'il redoutait une ruse, lança timidement à Nagui. Oui, maître, Claire Nadeau et Philippe Lelièvre sont d'excellents comédiens.
C'est vrai.
Mais ça, je m'en fous, JNB, comme de ma première paire de babouches en cristal, rétorqua Nagui. Mais je te remercie car Claire et Philippe jouent dans une pièce qui n'a pas encore commencé. Tu sais, comme j'ai autant horreur du mensonge que du théâtre, eh bien, je n'aurais pas besoin, comme chaque fois que je reçois des comédiens de théâtre, de leur dire que j'ai vu leur pièce et que je l'ai trouvée formidable. Puis, se tournant vers moi, Nagui me demanda : Au fait, Maréchal, rappelez-moi le titre de la pièce. Non à l'argent.
Ah, dénagué. France Inter, je le dirai tout à l'heure pour faire un bon mot, hein, dans ma présentation. Un titre pareil prend tout son sens, la France Inter. Mais c'est quand même le titre le plus con que j'ai jamais entendu. Non à l'argent, non à l'argent. Comment peut-on dire une telle niaiserie, même pour plaisanter? Bon, c'est pas tout. L'émission va commencer, mais pas de panique. Moi aussi, comme Philippe Lelièvre, je suis un génie de l'impro. Voilà ce que m'a confié Nagui tout à l'heure. Maintenant, je vais pouvoir tousser tranquille. Vous êtes prévenus. Bonne émission.
Merci, Marcel Gattech.
La bande originale. Nagui. Sur France Inter.
Ah ouais, t'étais au bout du rouleau là, Albert. Hein,
oui, je disais, j'ai un truc qui va.
Un truc qui, voilà. En fait, c'est pas l'argent lui-même qui est mauvais, c'est ce que l'on en fait et la manière dont ça se passe. Et même quand on prend pas les 162 millions d'euros, ça crée des malaises.
Bah surtout quand on les prend pas.
Bah oui, enfin, oui. Sauf que Richard, le personnage, part du principe que s'il les prend, il va y avoir des jalousies, il va y avoir des tensions, il va y avoir, et pourquoi moi j'ai pas ci, j'ai pas ça, enfin, oui. Peu importe.
Enfin, il a peur. Bizarrement, qu'on dilapide tout ça en faisant des conneries, en prenant des douches au champagne, etc. Ce qui est ridicule.
Ou de partir en vacances tous les jours à ne plus savoir quand revenir, faire la fête, bon. Que la fête.
C'est-à-dire de faire vraiment peu
mais
confiance.
Ce qui visiblement est déjà arrivé à des grands gagnants du loto qui ont été.
Qui ont tout claqué très vite.
Ouais. Et puis qui ont été tristes ou qui ont fait des dépressions ouais. Ou ouais. Qui ont commis ouais. Aussi des erreurs de.
Je ne sais pas, je n'ai pas fait d'études sociologiques.
On va en parler.
Il nous sort régulièrement, mais l'argent. Ne tout fait pas l'heure. Le bonheur, et j'ai la gentillesse de lui
sauf
dire.
Sauf le mien.
Mais il y contribue, connard.
C'est une réplique, c'était une réplique de la pièce. Et est-ce que Flavia Coste, Claire Nadeau, a écrit pour vous ce rôle?
Non, je crois pas.
Non, c'était après?
Oui, c'était après. Elle a écrit sa pièce, ouais. Et puis elle m'a proposé le rôle, mais je ne pense pas inspirer les auteurs à ce point-là.
Au début, c'était pour Claudine Choucard, mais elle n'a pas voulu la faire.
Non mais c'est vrai que le titre fait titille un tout petit peu. Mais on voit non à l'argent, on se dit qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ce titre. Alors il y a en effet le fait que donc un personnage joué par Pascal Légitimus refuse d'aller retirer ce grand prix du loto. Il y a le message aussi humain, il jouait les mêmes numéros que ce que son père jouait, en l'occurrence c'est la date de mariage entre vous et son père est en partie. Voilà, donc non mais il y a un côté très affectif, il le jouait presque pour rendre hommage à son père, pas spécialement pour gagner
mais
l'argent.
Mais non, c'est, d'ailleurs il le dit à un moment, parce que le personnage joué par Philippe, il dit mais excuse-moi, mais...
Pourquoi tu jouais à la base?
Tu jouais à la base. Il dit mais moi j'ai jamais joué pour gagner.
C'est un rituel. Voilà.
Ah d'accord.
Okay. Et puis arrive le fait que c'est la question, chacun se la pose d'ailleurs aussi, on peut même se la poser ici autour de la table, on ferait quoi si on gagnait au loto, Claire Nadeau, feriez quoi?
C'est bien ça, c'est la question.
Vous en feriez quoi, 160 millions?
Moi, je rachète la bande originale et pour vous faire chier, je vous mets plutôt. C'est pas mal quand on a du pognon, ça, non?
D'accord.
Non. Albert Algo, tu gagnes 162 millions d'euros, t'en fais quoi?
Oh, je sais pas, je le boirai.
Ça hâte la fin, peut-être.
D'accord, Daniel Morin.
Je crois que j'ai une espérance de vie de 48 heures.
Tellement tu pètes un câble, d'accord. Leïla,
moi, je sais pas compter aussi loin, quoi. 162 millions...
Tu comptes bien, ma fille. On l'a vu.
Non, j'ai aucune idée.
Aucune idée. Il n'y a aucun réflexe immédiat. Thomas Wiesel.
Non.
Je vous engage pour 6 mois, Nagui.
Ah, t'as pas assez.
T'as vu, j'ai laissé le temps de la vanne. Autrement dit, autour de cette table, vous êtes 6, aucun ne pense à des œuvres caritatives.
Nagui, vous qui les avez.
Quand tu reçois la nouvelle comme ça, spontanément, sur le moment, que veux-tu faire?
Parce que c'est l'une des répliques justement dans la pièce, de dire, mais même si tu les veux pas, prends-les, entre guillemets, et après donne-les.
Oui.
Voilà,
mais il a une réponse à ça. Il a une réponse, le personnage de Pascal Légitimus, il explique qu'il ne peut pas donner à tout le monde. Donc, c'est une forme d'injustice. Donc, il a préféré ne pas prendre l'argent.
De choisir telle association plutôt qu'une autre, d'un coup, ça...
Et puis, si on dit, je vais faire pour une œuvre caritative, etc., on va dire, le Tartuffe, ou il se la pète un petit peu. Donc...
C'est de l'hypocrisie, tu veux dire,
d'être généreux. Oui, il y a des gens qui vont penser ça, il se fait valoir parce qu'il a une bonne intention. Mais j'ai une bonne intention. l'émission.
En tout cas, on ne pourra pas me traiter d'hypocrite, je donne à personne.
En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que c'est évidemment drôle, cette pièce, interprétée par Claire Nadeau et Philippe Lelièvre. On a toujours plaisir à les retrouver sur scène. Pascal Légitimus jouant le rôle justement de cet Richard. Homme totalement inconscient qui refuse 162 millions d'euros. Au-delà de vous demander, vous, vous feriez quoi si vous gagniez au loto? Est-ce que vous refuseriez ou pas cet argent? Vous pouvez déjà vous amuser en allant au Théâtre des Variétés, les applaudir à partir du 22 septembre. Vos oreilles ont sifflé, Léla, quand on vous annonçait la venue de Claire Nadeau et Philippe Lelièvre.
Et oui, et quand je pense à vous, Claire Nadeau, je pense forcément à... Dans les années 80, le Colaro Show.
Parce qu'il y a eu tellement de versions différentes entre la 2, la 1 aussi. Vous avez changé de chaîne, il y a eu plein de chaînes.
Plusieurs fois, oui. Ouais. Il y a eu la 5 à l'époque, la grande époque Berlusconi.
Ouais. Dans les années 90, ça, cette fois-ci, non, j'imagine.
Berlusconi. Ah, peut-être, oui.
Non, je sais pas.
Oui, oui.
On va y revenir tout à l'heure à l'occasion de la bande originale de votre vie, au Colaro Show. Mais moi, ce qui a retenu mon attention, c'est que votre point commun à tous les deux, vous, Claire, c'est le Colaro Show. Vous, Philippe Lelièvre, c'est la Star Academy. Deux machines télévisuelles complètement monstrueuses qui ont été des moments phares au moment de la diffusion pour le grand public. Est-ce que vous vous êtes senti écrasé respectivement par cette machine qui tout d'un coup est entrée dans la vie des gens et qui a fait que, à tel point qu'on pouvait vous limiter à cette époque-là à cette vision, au rôle de Sue Ellen éventuellement.
Et encore maintenant.
Et encore un peu maintenant.
La preuve.
Ouais, non mais.
Alors tais-toi et laisse parler d'autre chose.
Non, non, absolument aucune conscience, aucune notion de. On bossait tout le temps.
Oui.
Donc. Moi, j'avais aucune idée de l'impact que ça pouvait avoir.
En revanche, vous, Philippe, c'est arrivé plus tardivement, la Star Academy, forcément. Oui. Et là, on commençait davantage à sentir le poids de la puissance médiatique de cette émission programmée qui a fait des cartons d'audience. Oui. C'était fou.
C'est la popularité que ça donne, surtout, parce que ça continue même 10 ans après. C'est même vrai. Quand j'ai mon casque à moto... Ça s'estompe, je dois l'avouer. Mais c'est vrai que moi, ça m'a...
C'est-à-dire, non, on vous dit
quoi ? Reconnaît.
On me reconnaît.
Oui, mais en vous disant quoi ?
Alors, je me rappelle de vous, vous m'avez donné envie de faire du théâtre, vous avez envie de donner faire du théâtre à mes enfants, ce qui était merveilleux. Si à l'époque, j'avais monté une école de théâtre, j'aurais 162 millions d'euros.
Alors pourquoi vous l'avez pas fait ?
Mais parce que ça me j'enseignais juste pour le plaisir et pas du tout de devenir un directeur d'école, etc. Mais moi, ça m'a vraiment fait... Du bien et du mal. Du bien parce que j'ai rencontré ma femme dans cette émission. Et du mal parce que... parce que j'ai été un petit peu... j'étais un petit
ça,
peu...
C'est bon.
Elle est très bonne. Elle est très bonne.
La vanne.
J'ai un petit peu... La vanne.
Prends un petit coup de salade. Tu vas faire un tour.
Allez.
J'ai effectivement un peu souffert par la suite parce que je faisais ce métier depuis quelques années déjà. Et tout à coup, mes articles dans Technica se sont arrêtés du jour au lendemain parce que je suis devenu un peu le diable.
Grand public.
Grand public, et donc ça n'avait plus d'intérêt. Mais j'ai essayé de garder mon âme parce que d'abord, quand j'étais à la Star Academy, je n'ai rien changé. Donc j'enseignais depuis quelques années, ce qui fait que les élèves qui me voyaient dans l'émission m'envoyaient des SMS en disant « Oh, c'est génial, c'est comme avant. » Moi, je n'ai rien changé. Mais ça a été long après de me détacher de ça. Heureusement que j'ai pris mon mal en patience, que j'ai continué à mettre en scène et à écrire, mais... En tant que comédien au cinéma, par exemple, et à la télé, ça s'est arrêté net.
C'est un peu comme gagner au loto, votre histoire, en fait.
Oui, c'était terrible.
C'est personne non grata. C'est-à-dire que d'un coup, c'est le mec qui a osé...
Qui a osé faire ça.
Aller à la salle.
Un petit peu. Alors, j'exagère un peu, mais maintenant, j'ai du recul. Mais ça a été dur sur le moment. Je ne vais pas citer des gens qui m'ont dit « Mais pourquoi tu as fait ça ? Tu ne te rends pas compte ? Tu vas te griller entièrement ?»
Ça grille une image, c'est ça.
Ça grille une image. Mais à la fois, je faisais un peu mon métier aussi.
Mm-hmm.
Et puis, je n'inventais rien, j'étais moi-même.
Et vous étiez égal à vous. C'est exactement.
Voilà, j'ai pas...
Avec les mêmes vannes.
Parce que la lucarne, elle grossit tout. Hein, si vous essayez de
c'est une loupe.
C'est une loupe énorme, c'est le cas de le dire. Très drôle. Pas de vanne là-dessus ?
Aucune.
Très bien. J'ai une carte énorme comme moi. Donc j'ai un petit peu souffert, et à la fois, avec le recul, j'ai vraiment aimé ce moment de ma vie.
Et Claire Nadeau, vous, ce qui vous a fait, entre guillemets, ce qui vous a collé à l'image, c'est pas, est-ce que c'est le Colaro Show ou est-ce que c'est Sue Ellen ?
les personnages.
Non, c'est Madame Folding, moi.
Madame Folding, ouais, c'est, ouais, c'est génial. Ouais. Mais en même temps, ça vous a pas empêché en 95 de tourner avec Sauté dans Nelly et Monsieur Arnaud. Vous avez été même nommé pour le César de la meilleure actrice pour un second rôle. Ça veut dire que est-ce qu'il a fallu attendre quelques années pour que les propositions ciné apparaissent avec des rôles comme ça forts où il y a quelque chose vraiment d'important à jouer?
Bah oui, il a sûrement fallu attendre. Mais moi, j'ai eu très souvent cette réponse, oh là là, télé, non, vous êtes trop télé, vous.
Enfin, bon, voilà.
Comme si on n'était pas acteur, quoi.
Est-ce que ça, c'était, pardon, pendant la diffusion du Collard au chaud ou même après?
C'était surtout après, parce que pendant, moi, je tournais, ah,
mais,
donc...
Non, mais d'accord, mais temps, être trop télé quand on est à la télé, j'entends, mais une fois que ça s'est arrêté...
Ah bah, une fois que ça s'est arrêté, on est trop télé. Quand définitivement.
Pendant d'accord. un temps, en tout cas.
Oui.
Ouais. Et là, vous avez la sensation que ça se dissipe, ça?
Non.
Non, toujours pas.
Pas à un certain niveau.
Malgré ouais. tout, la filmographie dont a parlé Leïla, oui. Ça ne change rien.
Non, ça ne change rien, mais c'est comme ça.
Et enfin, vous regrettez ou pas? Est-ce que si c'était à refaire, vous participeriez, vous, Claire Nadeau, au Collard au chaud, et vous, Philippe Lelièvre, à la Star Academy?
Moi, bien sûr.
Je pense que oui. D'abord parce que je l'ai fait aussi pour gagner de l'argent. J'avais une société et ça m'a permis de créer beaucoup de choses.
Ouais.
J'ai pas gardé le pognon pour me dire je vais m'acheter une voiture de sport. J'avais une société et ça m'a permis de produire des pièces de théâtre. Ça m'a permis de faire ce que j'avais envie de faire. Mm-hmm. Et là, c'est pour ça que est-ce que je toucherai les 162 millions? Oui. J'achèterai un théâtre. Je ferai travailler des jeunes auteurs. Enfin, ça m'exciterait beaucoup. Donc
c'est intéressant. Et en termes d'émissions de télé à sketch, parce qu'on n'en fait plus, des Collard au chaud qui étaient tous, il faut rappeler quand même, c'était tous les jours, c'était à 8h moins le quart, me semble-t-il,
on n'avait pas le droit de regarder parce qu'il y avait des femmes dénudées.
Et le samedi.
Voilà. Le vendredi. C'était pas le samedi, c'était en fin de semaine le vendredi, il me semble, non?
Oui, je crois que c'est. Il s'en souvient très bien.
Je pense que vous en souvenez mieux que moi.
Mais c'était incroyable.
Il regardait que ce jour-là.
Il y avait. Non, mais il faut quand même le rappeler.
Des filles dénudées qui montraient leur sein, en gros, hein. Regardez la culotte,
oui,
hein.
Oui, mais qui était un string.
Qui était un string.
Pas toujours.
Qui était un string.
Des fois, il y avait des grosses culottes.
Mais c'était quand même.
Faites confiance à Nagui, c'est connu en lingerie.
Non, c'est pas ça. C'est que imagineriez. 3, 4. Est-ce que vous pourriez imaginer?
C'est bien comme ça.
Il n'y a pas que moi qui a des problèmes d'addiction.
Non, mais il n'a pas ouvert son école, donc tout de suite, là, je peux pas vous traiter. Est-ce que vous pouvez imaginer, aujourd'hui, à 8h moins le quart, à la télévision, une fille faisant un striptease pratiquement intégral, je vous l'accorde, qui finirait en string, en dansant sur une table, avec des comédiens qui jouent les pervers pépères autour, et à 8h moins le quart à la télé aujourd'hui? Est-ce que c'est imaginable, Claire?
Non, mais à 8h30, oui.
Je crois pas plus.
Non, c'est pas imaginable. Et moi, j'ai envie de dire, c'est mieux. Pas souhaitable, en fait. J'ai pas envie de... Parce que le souvenir que j'ai du Collard au chaud, au-delà des sketchs, c'est que tout d'un coup, on avait... vous parliez de l'époque Berlusconi, je crois que ça incarne bien aussi la problématique. C'est la femme objet, la femme qui est juste là, perçue pour son enveloppe corporelle et qui est exhibée face à des hommes qui la regardent
en bavant. Il y avait justement des femmes comme Claire Nadeau.
Pas seulement,
il y avait
Claire qui jouait.
Martin Lamotte.
Je ne parle pas des pastilles. Je parle pas des pastilles. Je parle de la mise en scène de la femme dans une partie de ce show.
C'était une époque.
Okay.
Oui, c'était une époque. Et puis c'était le numéro de striptease. Ça existe partout, en tout temps.
Et ça continue d'exister. Sauf que.
Et à l'époque, il y avait Bénil en Angleterre où il y avait.
Oui, mais à l'époque. Mais aujourd'hui.
Maintenant, il y a des choses bien plus vulgaires dans le propos qui passent même en prime time.
Exact. La pièce de théâtre s'appelle, qui est loin d'être vulgaire, si ce n'est que ça parle d'argent. Et l'argent, c'est vulgaire. Non à l'argent. C'est à partir du 22 septembre et c'est au Théâtre des Variétés avec Claire Nadeau et Philippe Lelièvre, entre autres, qui sont nos invités, mais également Julie Debonat et Pascal Légitimus dans cette pièce de Flavia Coste, mise en scène par Anouche Sedbon. Voici l'humeur de Thomas Wiesel.
Merci. Et je vais briser un tabou sur cette antenne. Non, je ne vais pas dire du bien du dernier album de Patrick Sébastien. Je vais pas me faire virer tout de suite, mais je vais parler de foot. Oui, on m'a donné l'autorisation, on m'a dit la bande originale, c'est la seule émission d'Inter où tu peux te permettre de parler foot.
T'es même obligé des fois.
Ouais, je suis très heureux, Nagui, de faire partie de la classe SECPA de France Inter. Mais c'est un peu hypocrite, hein, parce que la semaine dernière, j'ai entendu tout le monde dans les couloirs parler du transfert de Mbappé au PSG, mais à l'antenne, faut faire semblant d'avoir lu le dernier Modiano, d'avoir vu l'intégrale des Fers d'Ardennes. En plus, c'est tant qui dit foot dit géopolitique depuis que les Qataris du PSG se sont fait une session shopping de folie cet été. D'abord, c'était Neymar, 222 millions d'euros, puis Mbappé, 180 millions, le deuxième plus gros transfert de l'histoire pour un joueur de 18 ans et demi. Il est tellement jeune qu'on dit encore les et demi. Un talent très prometteur, certes, mais ça reste un joueur qui a que 6 mois d'excellent football derrière lui. Il a une carrière plus ou moins aussi longue que celle des Last Ketchup. Le PSG, c'est quand même le club qui prend un 6-1 en Ligue des Champions, Nagui, et qui se dit le problème, c'était l'attaque. La même semaine, ils ont aussi acheté Teddy Riner, le PSG. Je savais même pas que le PSG avait un club de judo. Même le PSG savait pas qu'ils avaient un club de judo.
Ils ont hand, basket, judo, ils ont y a tous les sports.
Ils s'en foutent, ils achètent. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, c'est le mec bourré en boîte qui paye la tournée à n'importe qui. Faut pas qu'ils zappent sur José Finange Gardien, sinon il va acheter Mimi Mati pour la mettre dans son jardin. Moi, j'ai l'impression que les dirigeants qataris, ils vivent dans un rêve mouillé de Pierre Gattaz, où tout s'achète et où les lois ne sont que de vagues indications qui demandent à être contournées. Comme le fair play financier, par exemple. Ça, les qataris, ils s'en tartinent le kéfier avec du beurre de micelle. Moi, je les comprends, parce que fair play financier, le titre fait fantaisiste. Fair play, ça va pas avec financier. C'est comme Cerveau et Évangélie ou Daniel Morin et Finesse. Qu'est-ce que le fair play financier, le FPF, le non, ce n'est pas Dominique Besnéard qui éternue. C'est une règle mise en place par l'UEFA précisément pour contrer l'arrivée des fonds souverains dans le foot et l'endettement massif des clubs, et qui stipule plus ou moins qu'un club doit gagner à peu près autant qu'il dépense, donc que le PSG va devoir gagner 200-300 millions d'euros supplémentaires par an. Même Nagui trouve que ça fait beaucoup, c'est vous dire. L'UEFA a donc ouvert une enquête et le PSG a répondu qu'ils étaient surpris. Surpris, voilà, ils dépensent l'équivalent du PIB annuel d'un pays en voie de développement en un mois, mais ils sont surpris que ce soit louche et que l'UEFA enquête. C'est le type qui se fait gauler en train de rouler à 250 km/h en ville, et quand le flic demande « Vous savez pourquoi je vous arrête ?», ils font « Non, j'ai un clignotant qui marche pas ». La punition,
on fait tous ça quand on se fait arrêter pour excès de vitesse, non ?
Non.
Tu avoues tout de suite.
Non, tu dis non. Il
y a que toi qui as une bagnole qui monte à 220.
Façon, nous,
Moi, je suis en train.
C'est 220 personnes, hein, c'est un bus. Hein,
et la punition, quand même, peut aller jusqu'à priver le PSG de Ligue des Champions et donc les fans parisiens.
Et donc tout ça pour ça, punaise.
Oui, pour priver le PSG de Ligue des Champions et donc priver les fans parisiens d'une immense désillusion en quart de finale. C'est quand même pas très sympa. Et pour le Qatar, ces achats, c'est une jolie diversion d'une situation géopolitique qui est un peu compliquée. Cet été, quatre de ses pays voisins, dont l'Arabie Saoudite, l'ont mis sous embargo en l'accusant de financer et supporter le terrorisme. Et si même l'Arabie Saoudite trouve que t'es trop sympa avec les terroristes, faut te regarder dans la glace. Moi, Gérard Depardieu me dit, dis donc, tu t'es un peu laissé aller, je commence un régime direct. Donc la presse du monde entier a publié des articles sur les liens entre le Qatar et le terrorisme, la communauté internationale condamne les agissements du Qatar et hop, Neymar et Mbappé, on parlait de quoi déjà? 4-3-3, 4-4-2, Al-Qaïda, je connais pas, c'est un milieu gauche. Le Qatar, ils adorent utiliser le foot pour leur pub, ils avaient déjà acheté la Coupe du Monde 2022 pour laquelle ils exploitent des travailleurs immigrés qui meurent sur les chantiers par milliers. Le seul moyen qu'ils ont de les retenir, c'est de confisquer leur passeport, la même technique qu'utilise Cyril Hanouna avec ses chroniqueurs. Et d'un côté, la communauté internationale s'offusque, d'un autre, on leur vend des armes en se pinçant le nez. C'est vraiment mal ce que vous faites, on n'est pas content du tout, ça fera 12 milliards les sous-marins et 6 les avions de chasse. Un emballage cadeau avec ceci. D'ailleurs, Nagui, est-ce que tu peux me rendre mon passeport? J'ai un entretien chez Qatar Inter qui quintuple mon salaire.
Je rappelle qu'il est suisse. Hein. Thomas Wiesel, merci Thomas.
France Inter, Nagui, la bande originale.
J'ai fait comme pour Tom Villa, j'ai donné à Cyril Hanouna, vous débrouillez après, je ne veux pas savoir ce qui vous arrive. Au-delà des vannes, bonnes vannes de Thomas Wiesel sur Mbappé ou Teddy Riner, saluons quand même Teddy Riner qui était venu à ce micro, qui a gagné pour la 9e fois.
Tu crois que c'est lié?
C'est grâce à nous. C'est grâce à nous, il a fait aucun entraînement, il était blessé pendant un an.
Il me l'a dit,
C'est incroyable.
25 kilos il a perdu.
Il dit quand même, après Rio, je me suis laissé un peu aller, j'ai perdu 25 kilos. Je me dis un peu, c'est fou quoi.
Je sais pas si vous avez vu la finale, mais il s'est fait mal au genou. En plus, ça s'est joué au Golden, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs.
Ça fait 7 ans qu'il a pas perdu, je crois.
Ouais.
C'est ça, depuis 2010, où il avait perdu. Enfin bref, c'est un grand bonhomme, un grand monsieur. Et on l'embrasse avec un énorme respect. Parce que évidemment, quand tu as beaucoup de respect. C'est ça. Tu prends un escabeau pour l'embrasser et t'as beaucoup de respect. Tu dis je peux ou je peux
tu
pas.
Tu l'embrasses, Yves.
C'est ça. Dans quelques instants, nous allons recevoir, puisqu'on parle de cette pièce de théâtre, Non à l'argent, qui raconte l'histoire probable, mais qui n'est jamais arrivée, d'un gagnant au loto qui refuse ses gains. Nous allons recevoir Dominique Desjeux. Ça ne s'invente pas. Qui est à la fois enseignant-chercheur, anthropologue et sociologue français. Et on va s'intéresser au profil type des joueurs et si vraiment l'argent rend malheureux.
Mais c'est un français.
Dominique Desjeux ?
Oui.
Oui, pourquoi ?
Non, sinon on l'appellerait la française des jeux. Mais bon, c'est pas grave.
Mais ça va pas.
L'important, c'est de tomber.
Mais d'abord, la bande originale de Claire Nadeau et Philippe Lelièvre. Quelques dates comme ça prises au hasard dans vos vies avec des titres que vous écoutiez. Claire Nadeau, par exemple, dans les années 60. 70, vous écoutiez Otis Redding. Qu'est-ce que c'est bien, ça ?
Sitting on the dock of the bay, wasting time.
Vous écoutez cette musique, vous écoutez Otis, vous vous revoyez, je sais pas, dans un appartement.
Dans un ascenseur.
Non.
Ah, il allait plus vite que nous.
Je fais partie client. De la bande.
Je suis très client.
Le roi de l'impro.
Ah, je me vois
dans quel
bien.
Cadre vous voyez,
oui, ouais. Je me vois bien au bord de la mer, il fait chaud, il fait beau. Et je suis
quelle mer vous êtes de quelle région
Méditerranée.
Vous êtes plutôt de la Méditerranée.
Oui.
D'accord. À ce moment-là, vous jouez au Café Théâtre, dans une pièce qui s'appelle Thérèse est triste. Non,
ah oui, là, oui. C'était une pièce de sketch montée par Coluche, qui venait de quitter le Café de la Gare avec Perte et Fracas.
Et, bon, il y avait eu un clash de potes, oui.
Un clash de potes. Ouais. Et voilà, et donc il a recruté quelques imbéciles, dont moi.
Alors c'est marrant parce qu'avant, vous aviez plutôt joué des classiques Claire Nadeau au TNS, au Théâtre National de Strasbourg.
Oui,
qu'est-ce qu'il fait
au TNP, au TNS.
Et au TNP
ça,
aussi.
Conservatoire.
Voilà, elle a fait toutes les lettres de l'alphabet. Hein.
TNP, TNT. J'ai pas fait la TNT, ça n'existait pas.
Encore, mais vous avez un parcours ultra classique, vraiment très beau, très de qualité. Comment ça
parce
se passe?
Parce que le reste n'est pas de qualité, alors, en fait.
Après, vous avez fait de la merde. Est-ce que vous pouvez
mais
nous expliquer l'autre
part? On est en 70.
Bien commencé.
Claire Nadeau, on est en 70. On est en 70. Oui. En 70, oui. Avant de rencontrer Coluche, oui. Votre itinéraire, il est purement classique.
Très classique.
Et alors, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de basculer et que vous acceptez de bosser avec Coluche?
Quand vous rencontrez quelqu'un
de
comme
sombrer.
Ça... Non, mais
elle a raison. C'est aussi, ça peut être considéré comme aussi grave que de faire un sketch à la télévision et d'un coup de dire « Mais pourquoi t'es allé faire ça ?»
Non, mais moi je dis pas que c'est grave. Aurait...
Non, si. Parce que Coluche était subversif, c'était même risqué aussi professionnellement peut-être que quelqu'un, des amis, vous ont pu vous dire « Elle a raison. »
Mais moi, j'ai jamais eu ce genre de raisonnement.
Non.
Moi, je suis toujours allé là où j'avais envie d'aller, je rencontre ce mec, je le trouve génial et j'y vais, quoi.
Non, parce
je
ne
suis pas posé de questions.
Heureusement, quelques années plus tard, il y a eu Madame Folding de Shakespeare qui vous a...
qui m'a remis cette habilité.
Non, mais parce que ce qu'il faut préciser, Claire Nadeau, pour bien comprendre, moi, mon étonnement, c'est que oui. Vous êtes la fille de Maurice Nadeau. Maurice Nadeau, oui. C'est un grand auteur, un critique littéraire qui a fondé une revue culte, n'est-ce pas?
Oui.
Voilà.
La quinzaine littéraire.
La quinzaine littéraire, c'est quand même pas rien. Il a tenu pendant une dizaine d'années les pages littéraires de Libé. Grâce à, il côtoyait, les pages littéraires de Libé pendant 7 ans, je crois.
Libé, je crois pas.
Si, je crois.
Non, il les a tenus.
Pas sûr.
Il a rien écrit, mais il a raison.
Il a fait découvrir tout un tas d'auteurs merveilleux, que ce soit Georges Bataille, Henri Miller. Enfin, bon, c'est un précurseur. Donc vous venez aussi d'un univers qui est
intello, on va dire.
Bah ouais, très intello. Ouais. Donc c'est pour ça l'étonnement de se dire.
Mais Coluche vous... n'était pas un imbécile.
J'ai pas dit ça.
Pas ça. Non, mais attendez, je défends Léla, il est pas attaqué. Oui. Non, comprenez bien sa question. C'est vrai que dans les milieux intello et quand on part dans les TN quelque chose, on se dit. Je suis au Théâtre National.
Non, est-ce que
je vais aller au CAF-Cons? Est-ce que je vais aller faire des sièges?
Je ne me suis jamais posé la question dans ces termes-là.
Et personne ne vous l'a posé autour de vous non plus?
Non, du tout. Et en plus, mon père aimait beaucoup Coluche.
Bah ouais.
Et Coluche, au moment où vous avez choisi de partir travailler avec lui, c'était pas Coluche star non plus,
non,
française.
Non, mais c'était lui déjà, entièrement.
Oui, mais c'était dans un noyau réservé du centre de Paris. Quoi.
C'est vous dire le goût. Que j'ai.
Mais c'est pour ça d'ailleurs que c'est une merveilleuse comédienne parce qu'elle a commencé par une base classique et après, une fois qu'on a fait le classique, eh bien sûr, on fait ce qu'on veut.
J'aime beaucoup la merveilleuse comédienne.
Oui, oui.
Merci, mon chéri. Il est formidable.
Non mais c'est intéressant d'entendre cette analyse du prof, ouais, c'est de dire si on
c'est une analyse de prof, c'est de dire
au moins les bases que l'on peut avoir au conservatoire servent à tout faire derrière. Plus que, à l'inverse, ceux qui sont bons en improvisation ne seraient pas forcément bons avec un texte classique.
Si on parle de l'improvisation, on peut être bon en improvisation, bon en texte classique, on peut être bon en improvisation et mauvais acteur. Il n'y a pas être improvisateur, c'est dans la boîte à outils de l'acteur. Donc c'est pas ça qui fait du bien ou du mal. C'est vous qui vous faites du bien avec ça. Maintenant, est-ce que si tout à coup on est découvert par quelqu'un qu'on n'a jamais fait ce métier et qu'on devient génial, ça existe aussi. Il n'y a pas de recette. Mais c'est vrai que si on a travaillé du texte classique, la base comme une barre au sol, comme un danseur classique, j'en parle...
Que j'ai fait aussi.
Voilà. Mon fils a commencé par le classique et c'est un très bon danseur contemporain, mais il a une vraie base. Voilà.
Alors justement, vous écoutiez Philippe dans ces années, Jacques Brel.
Une valse à trois temps.
Je vous dirai pourquoi.
Bah oui, j'espère.
Qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme ces chats.
J'en ai soupé de ce dos.
C'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps.
Alors
une
pourquoi
valse
Brel
à 20 ans.
Bah, dans les années 70, c'est mon père qui écoutait Brel. Et il écoutait Brel, il réécoutait Brel, et parfois il réécoutait Brel. Donc à la fois j'aimais Brel et
vous avez eu votre dose.
J'ai eu ma dose, mais c'est pareil, c'est des bons classiques. C'est une bonne base.
Ah puis en termes d'interprétation là, que ce soit comédien ou chanteur.
Mais en fait, j'ai découvert beaucoup plus tard finalement, parce que petit,
Brel,
ça me gonflait.
Brel savait tout faire, que ce soit l'emmerdeur ou que ce soit des
magnifiques acteurs,
des pièces voilà plus traditionnelles.
Et vous, Philippe, vous passez par l'acteur studio. Studio, pardon.
Le studio.
Là, si. On m'a parlé J'ai fait l'acteur studio, mais pas longtemps. J'ai fait un an, parce que c'était un travail intéressant quand même, parce que c'est un travail sur l'intériorité des personnages. Et tout à coup, j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas encore pu rencontrer dans ma vie de carrière. C'était l'intériorité. Je me disais, tiens, est-ce que tu peux tout à coup te souvenir comment tu étais triste? Et ça me le disait dans n'importe quelle situation.
C'est parfait. En fait, on s'était mis d'accord avant. C'était voilà.
C'est bien. Bien sûr.
Voilà. Et sinon, Philippe.
Et ça s'est fait.
Donc, vous passez par cette formation-là. Vous intégrez ensuite les cours Florent.
Oui.
Et là, c'est plus classique. C'est dans l'apprentissage. Est-ce que c'est on s'y épanouit autant que dans le côté expérimental et performatif de l'acteur studio?
Chaque cours a sa personnalité. Souvent, on me demande dans la rue quel cours il faut faire.
Oui.
Il faut d'abord aller dans un cours, voir si on s'y plaît. Si on s'y plaît pas, on s'en va. Moi, j'étais à l'époque avec des gens merveilleux, avec Nanty, avec Marouchka Detmers. Quand je me retourne maintenant, cette classe libre-là, tout le monde travaille. C'est une époque où tout le monde travaillait parce que je ne sais pas pourquoi. Maintenant, il n'y en a pas un qui est au supermarché. Quoi.
C'est le plein emploi.
C'est le plein emploi. Ploi, pardon. Donc, le cours, au-delà d'apprendre son métier... parce qu'il y a une part d'inné quand même, c'est de rencontrer des gens. Les rencontres sont essentielles dans ce métier, de se dire, tiens, est-ce que tu n'as pas envie de partager avec moi une écriture, une création? C'est hyper important. Plutôt que de dire, je vais monter sur scène toute la journée, et je vais être... Si on est mauvais, on est mauvais. Ouais. Même si on monte sur scène toute la journée. Je ne donnerai pas de nom.
Un prénom alors?
Non, même pas.
Début des années 80, Claire Nadeau, vous écoutiez Springsteen. Quelle est la place de la musique d'ailleurs dans votre vie? Vous écoutez tous les styles de musique?
C'est devenu une place qui n'existe plus en réalité. J'écoute plus de musique.
C'est triste, une vie sans musique?
Eh ben, pas tant que ça.
Voilà.
Non. C'est comme quand on ne boit pas, on dit ça doit être triste de ne pas boire. Ben non.
C'est bien parce qu'à chaque fois on pense avoir une réponse, mais rien. C'est le contraire. Mais en même temps, je trouve ça génial parce qu'elle est super étonnante. Vous êtes étonnante, Claire Nadeau. Vous n'êtes jamais là où on vous attend.
Vous êtes étonnante, oui, parce qu'on vous imagine en train d'écouter la musique fort et de picoler au fond de votre chambre.
Claire, je suis désolé.
C'est pas vrai.
On se désengage totalement.
J'essaie de traduire les propos de Leïla.
C'est pas vrai, Claire.
Alors autant je suis d'accord avec toi, Nagui, elle dit n'importe quoi très souvent, mais là non.
Je savais pas qu'il tomberait aussi bas.
Pardon.
Et le boss, vous l'avez déjà vu sur scène, Springsteen?
Non,
jamais.
J'ai vu 18 concerts filmés. Mais
Arrêtez, vous allez voir ça.
Bah oui, mais il est un peu vieux maintenant.
Mais restez, il chante, il vient ici dans un quart d'heure pour chanter.
Il fait encore des concerts de 3h30, 4h, c'est formidable. Il a une tournée là, il va revenir, il va repasser. Ouais. Ah, il faut que vous alliez voir ça, c'est juste dingue. Dans ces années 80, on parlait encore une fois de Cocorico Boy et du Collard au Chaud. Est-ce que dans le phénomène de société que ça pouvait représenter à l'époque, vous en étiez conscient au sein de la bande ou vous aviez la tête dans le guidon tellement vous travailliez au but de Chaumont et tellement. C'était au but de Chaumont à l'époque, c'est ça? rue des Alouettes. Vous n'arrivez pas de d'écrire les sketchs le matin pour les jouer l'après-midi.
La journée, moi j'ai les textes écrits sur la main.
Les anti-sèches sur la main.
Mais oui, parce qu'on n'avait pas le temps, ça allait tellement vite.
Avec Philippe.
Oui, Philippe Bruno qui écrivait, qui faisait partie des auteurs. Et ça allait.
Qui faisait partie
des joueurs aussi.
Des joueurs.
Oui.
Non mais.
Oui. Ah oui, quand même.
Et quelle était votre question? J'ai oublié.
Est-ce que vous rendiez compte de cette popularité ou est-ce que vous étiez dans les studios du matin au soir?
Oui, exactement. On était dans les studios du matin au soir à courir, à se changer de costume.
Et avec le recul, je ne me rends pas compte, ça a duré combien de temps cette aventure? Combien d'années?
Alors, moi, j'y suis resté 9 ans.
Ah ouais?
Ouais.
Ah ouais.
J'ai connu toutes les phases. Il y a eu par semaine, par mois.
Tous les rythmes possibles, ouais, les primes, les avec invité, sans invité, et ainsi de suite, quoi, la totale.
Mais la période la plus marrante, c'était quand c'était tous les jours. C'était la quotidienne, où il y avait tous les jours un chanteur, un sketch, etc. Ça, c'était marrant.
Et votre personnage préféré? Le personnage que vous incarniez, que vous préfériez à l'époque?
J'aimais beaucoup Marie-Jo, la poétesse, qui n'a pas eu un gros succès, mais que j'aimais beaucoup.
Il y avait Alain Decaux, vous faisiez l'historien.
C'est un cri d'alarme. Oui, je faisais Aline Decaux.
C'était formidable.
Ouais, c'était bien Aline Decaux aussi. Ouais.
C'était drôle, vraiment.
Mais c'était surtout extrêmement bien joué, faut le préciser. Vraiment. Philippe Lelièvre, vous, dans les années 90, fin des années 90, vous écoutiez Alain Bachung.
Madame Moëf, d'atomiseur. Et deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls.
Une belle patate. Ce que j'aime bien, c'est que vous choisissez Bachung par
festif.
Pour les textes.
Oui, pour les textes. Enfin, j'écoutais aussi plein d'autres choses. Je n'écoutais pas que Bachung. J'écoutais Sting, Prince. Mais c'est vrai que Bachung, c'est l'époque où je faisais de la radio.
Oui, mais enfin, excusez-moi, la radio sur laquelle vous étiez ne passait
justement,
pas Bachung.
Justement, c'est pour ça. C'est pour ça. J'écoutais beaucoup de.
C'était Énergie en l'occurrence.
Non.
Alors, ça rime, c'est pareil.
96, c'est Europe 2.
Europe 2. Et après, il y a eu Énergie.
Il y a eu 7 ans de levage à 3h30.
Ouais, c'est ça, le matinal, c'est
et
ça.
Et beaucoup de fatigue.
7 ans de levage. Ça fait mec qui sort du chantier quand même.
Ouais, c'était ça un peu. C'était le chantier. Le pire, c'est que c'était. Il y avait Énergie et Comédie le soir. Les deux en direct.
Et comment on pratique en attendant son métier d'acteur aussi?
Comment on pratique?
Oui, entre une matinale, une émission le soir.
Ça a été un moment un peu compliqué,
ouais.
Parce que je ne pouvais pas trop tourner. Donc, quelquefois, je tournais l'après-midi, mais là, le soir, j'étais rincé. C'est pour ça qu'après 7 ans, j'ai dit stop. Et que j'ai écrit Givré, et je suis sorti. Et je me suis fait virer d'ailleurs d'énergie
Problème d'alcool aussi.
Problème d'alcool. Très alcoolisé. L'alcool tôt, hein, parce que les matinales, on se met à boire du Ricard vers 4h30.
Les matinales, généralement, on grossit quand on fait les matinales, parce qu'on bouffe, des tonnes de croissants, de pain au chocolat et machin. Horrible. Et donc, vous avez pris.
J'ai pris beaucoup. Et voilà, et j'avais un sas comme ça, j'adorais écouter Bachung.
En 1996, vous, Claire Nadeau, vous écoutiez Eric Clapton. God.
C'est un français?
Eric Clapton?
Oui. Bon, pas dommage.
Vous pensez qu'à manger, hein?
Oui. À quelle heure, Clapton?
Voilà. Donc, Tears in Heaven, c'est Eric Clapton. Vous êtes en 96 nommé aux Molières.
Nommé aux Molières pour un second rôle pour Le Bonheur des Autres. Et vous allez. Vous vous souvenez plus?
J'ai oublié.
Elle est dans le moment présent, Claire. Arrêtez de l'embêter.
Vous vous souvenez plus de cette nomination?
Si, ça me revient là maintenant. Vous me dites,
et alors, comment? Alors, comme vous êtes toujours très étonnante dans vos réactions, comment vous aviez appréhendé cette nomination aux Molières?
Vous avez eu plein de nominations, Molière.
Oui, après en 2000, c'était pour Mariage et Conséquences. Oui. Après en 2002, Le Jardin des Apparences. Oh, en 2010.
C'est collecte.
Il fallait bien finir par le recevoir quand même, ce Molière.
Oui, à l'usure, je les ai eus.
Vous l'avez eu.
En 2010.
Peut-être que la prochaine fois, elle sera morte. Donnons-lui.
Non, mais non.
Pour un Goldoni.
Un Goldoni, oui.
Ouais,
oui,
la Serva Amorosa.
La Serva Amorosa, oui, avec Robert Hirsch. Robert, je vous aime.
Nous aussi.
Et donc, cette première nomination au Molière.
C'était un peu embarrassant en fait.
Pourquoi?
C'était un peu embarrassant parce que c'était une pièce à 4 personnages. Et quand on est la seule un peu pointée du doigt, c'est vis-à-vis des autres, c'est juste gênant.
C'est
quoi,
l'esprit
en fait.
De bande, ça que vous avez hérité du Collard au Chaud.
En fait, ça fait évidemment un petit peu plaisir d'un côté, théâtre. Et puis de l'autre, pas trop.
Quand vous dites on vous regarde encore comme une actrice de télévision à faire des sketchs à la télé, autant de nominations au Molière et la remise d'un Molière, on est d'accord, c'est fini. Il n'y a plus cette étiquette de Madame Folldingue ou de Sous Hélène.
Bien sûr.
Bah non.
Bah, si.
Pas avec un Molière, c'est fini.
La reconnaissance... Il y a très peu d'audience au Molière.
Ce que je veux dire par là, c'est que la reconnaissance de vos pères, de tous
théâtre,
les comédiens.
Mais oui. Bah oui, mais le théâtre, dans le théâtre, on ne m'a jamais dit que je faisais télé. Mais je parle du cinéma.
Où là, il continue d'y avoir une distinction. Alors
moi, je me suis fait virer d'un casting comme ça par un producteur pour qui j'avais fait le sauter et qui a dit « Ah non, 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 elle, oh, non, elle est trop télé. »
Vous avez déjà fait le sauter,
oui.
Donc c'est après.
Et j'avais été nommé au César pour le sauter.
Mais il est trop bête, surtout lui.
Ben, je ne sais pas, mais c'était un truc, tout d'un coup, il avait oublié. Oh, pardon, je tape dans le micro, excusez-moi. il avait oublié, et le film d'après, il a dit, oh non, elle est trop télé, elle.
En 2003, c'est votre premier seul en scène, Philippe.
Seul en scène.
Et vous écoutez du Mozart.
Ah oui.
Vous prouvez là l'éclectisme de vos goûts musicaux, en tout cas.
Le pluralisme, ça me paraît important dans la vie.
Le Requiem, c'est ce que vous écoutiez avant de rentrer sur scène ?
J'ai écouté le Requiem, je sais pas, 120 000 fois. J'ai écouté ça toute la journée.
Vous êtes prêt pour votre mort ?
Oui, moi je suis prêt pour ma mort. Ça m'angoisse pas du tout. Je suis pas angoissé par ça.
Il vous souhaite le meilleur.
Hein. Claire, ce qu'elle en pense, parce que Claire a toujours une réponse étonnante. Non.
De la mort en général.
Rien. Génial. C'est génial. C'est top.
Voulez-vous que le Requiem de Mozart soit joué le jour de vos funérailles ?
Oui, pourquoi pas.
Il sera pas là pour en profiter.
Eh les gars, là, vous déconnez, là, j'avais dit Molière. Non, Mozart.
Mozart. Un seul en scène et vous dites unique. Ça veut dire que plus jamais ?
Mes enfants me poussent à... Mes grands-enfants me disent « Allez, papa, tu veux pas refaire un truc tout seul ?» Un truc
tout seul. Génial. J'ai adoré, je l'ai vu plusieurs fois, trois ou quatre fois.
Oui, plusieurs fois.
Plusieurs fois. C'était super.
Oui, pourquoi pas. J'aime la notion de troupe quand même, moi, depuis que je fais du théâtre, depuis que j'ai 12-13 ans. Je suis dans la troupe. C'est vrai que tout à coup, ce spectacle, j'ai eu envie de le faire, je l'ai fait, mais je me suis un peu... Je me suis pas ennuyé, mais la tournée, c'est un peu chiant, quoi, tout seul.
Même si vous incarniez une dizaine de personnages à vous tout seul, parce qu'en fait, vous reconstituez la troupe tout seul. C'est ça qui est pas mal avec vous.
Oui, c'est ça. Et chacun des... Enfin, les spectateurs venaient me voir en me disant « Oh, j'adore Aziz. Oh, j'adore Jean-Christophe. Oh, j'adore. » Il y avait une fille qui venait me voir. J'étais très angoissé. Elle adorait un personnage, mais après, j'essayais de m'échapper d'elle parce qu'elle venait. Elle est venue, je sais pas, une quinzaine de fois voir le spectacle. Et elle adorait David. David, c'était celui qui était un peu comme ça.
Ma
ça
fille,
va,
quoi.
Là
ouais.
Ça va, t'as un problème, là ? Ok, on a parlé des morilles, on parle de quoi maintenant ? C'est dans le texte, excusez-moi. Mais elle adorait ce type-là. Et elle me disait, tu peux me faire David ? Et elle me faisait peur. Parce que je lui dis, mais David, c'est un personnage. Oui, mais j'adore ce personnage. Si tu nous écoutes, je t'adore.
Elle écoute. Alors là, vous êtes content, vous retrouvez une troupe, en l'occurrence, Pascal Légitimus, Julie Debonin, Claire Nadeau, et donc vous retrouvez sur scène au Théâtre des Variétés à partir du 22 septembre pour Non à l'argent. Et Dominique Desjeux, bienvenue Dominique à ce micro. Comme je l'ai précisé, vous êtes anthropologue et sociologue français. On parle de ces joueurs et de ceux qui vivent mal la somme. Ça fait vraiment peur de gagner 162 millions d'euros. Est-ce que c'est vraiment difficile psychologiquement et sociologiquement à gérer pour un gagnant du Grand Prix ou de la loterie ?
Alors, ça s'appelle
on n'a pas peur de gagner, c'est quand on a gagné qu'on a peur. J'ai deux collègues.
On est accompagné psychologiquement ?
Oui, j'ai deux collègues et néanmoins amis, comme on dit à l'université, Michel Pinson et Monique Pinson, qui ont fait un livre tout à fait formidable sur les gagnants du gros lot et qui montrait très bien ce moment absolument incroyable qu'on retrouve dans la pièce, qui est extrêmement drôle, que j'ai lu hier. Et il y a un passage, justement, à un moment donné, et c'est exactement ce qui se passe, semble-t-il, quand les gens gagnent, où le héros dit « J'ai un truc à vous annoncer ». C'est pas croyable, vous allez pas me croire. Alors ça dure un certain temps. Et à un moment donné, la maman dit, mais tu sais, on est capable de comprendre. On lit aussi des livres. Et puis sa femme ajoute, et même parfois, on les comprend. Et donc, il fait durer le suspense. Et ce que décrivent très bien les Pinson, c'est que quand on gagne, on est pris entre deux choses. À la fois l'envie de faire partager sa joie, donc on a envie de parler, ouais. Et en même temps la peur, parce qu'on sait que si on raconte ça, on va avoir un paquet de gens qui vont venir demander des choses. On a peur, là aussi c'est bien écrit dans la pièce.
On a peur quoi? De ceux qui vont venir les piquer alors, les sous, demander?
Exactement, on va avoir peur des amis, des vrais ou faux amis.
Des
dans
nouveaux.
La pièce, là encore, on voit bien, dès qu'il n'a plus d'argent, c'est la pierre des racailles, dès qu'il a de l'argent et il est formidable, ben, ils ont peur de ça. Ils ont peur des banquiers, ils ont peur du fisc, ils ont peur de beaucoup de choses. Donc ils sont pris dans cette tension. Et au moment, ils ne vont pas parler. Alors ça va durer plusieurs jours, plusieurs semaines, ça va dépendre des gens. Et ils vont commencer à parler au moment où ils ont le chèque, qui est un moment important. Le chèque peut en varier, je ne sais plus, d'un million à 162 millions, je ne sais plus quelle est la somme aujourd'hui. C'est assez élevé. Je crois qu'aujourd'hui, la Française des Jeux a diminué le gain maximum pour les multiplier. Mais c'est une somme très importante. Et là, on a un phénomène que je trouve assez intéressant. On ne peut pas le prouver tel quel, mais il est assez intéressant. La réaction varie aussi en fonction de l'origine sociale, qui est assez simple à comprendre. Si vous êtes d'origine populaire, vous ne vous sentez pas très légitime, vous avez une identité qui est liée à votre travail... Quelque part, vous pouvez culpabiliser par rapport à ça. Si vous êtes d'origine plus bourgeoise, plus cadre dirigeant, vous êtes déjà plus rodé à gérer de l'argent.
Vous voulez dire qu'il y a des millionnaires qui jouent au loto ?
Absolument. J'ai même il y a même un cas assez... Oui, parce
et
que en réalité...
Non, jamais assez.
Liliane Bettencourt a gagné 13 fois. Il n'y a pas de justice.
Ça, c'est le vendredi 13, qui est un autre... c'est aussi un grand moment. Il faut savoir
Non, mais finissons sur les millionnaires. Quelle est la démarche de quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent de jouer au loto?
Alors, ça, c'est un mécanisme qui n'est pas sociologique, mais qui est psychologique, et que je trouve très, très intéressant. C'est l'espèce de... On a tous besoin d'excitation. Alors, on a besoin du stimulus, on a besoin de quelque chose qui nous donne du sens.
Mais ils peuvent aller au casino à ce moment-là.
Il y a des gens, alors il y en a qui vont choisir le jeu, d'autres qui vont choisir l'alcool, d'autres qui vont choisir les jeux vidéo, d'autres qui vont choisir la moto. Je veux dire, les sources d'excitation sont pas infinies, mais sont assez multiples. Certains vont le mettre sur le jeu pour des raisons qui m'échappent. Et à partir de ce... Non, mais moi, j'ai un interdit sur le jeu. Il y a des gens, moi, on ne pourra jamais jouer à un jeu de hasard. Je veux bien jouer à un jeu de société. Là, je pars en Chine dans 3 semaines pour travailler sur les jeux de société en Chine. Je veux bien travailler là-dessus. Mais les jeux de hasard,
On gratte pas un petit banco de
moi,
temps
non.
en temps.
Moi, d'accord. Non. Mais c'est pas du tout... je ne justifie rien en disant ça. Hein, mais je ne pourrais pas.
D'accord.
D'autres gens, par contre, ils vont passer... un des hauts lieux, justement, de ça, c'est le tabac.
Oui.
Il faut aller au tabac, où ça peut se passer tout seul, ça peut se passer à plusieurs. Et les gens riches peuvent tout à fait jouer. C'est pas lié à la richesse, c'est lié à l'excitation, c'est lié à cette espèce de besoin de jouer avec la chance, avec le hasard.
Mais alors, vous disiez que en fonction du milieu social et de l'habitude de vie, on n'a pas le même rapport
au gain. Ouais. Oui, au gain. Alors, c'est pareil, tout ça joue sur les tout petits chiffres. Hein, c'est quelques dizaines de personnes par an. Donc, pour moi, les régularités là-dessus, il faut les manier avec prudence, mais peu importe. Mais en gros, c'est ce que montrent très bien les deux pinsons, c'est que il y a une variable, il y a une causalité liée à l'origine sociale, au rapport à l'argent, tout simplement.
Donc, ce n'est jamais arrivé que quelqu'un gagne de l'argent et n'aille pas toucher?
À ma connaissance,
je ne crois pas.
Ce qui peut arriver, c'est arrivé, je crois, l'an dernier, quelqu'un a fait don de tous ses gains à une association ou à des gens pauvres.
Génial.
Oui, c'est ce qu'aurait pu faire le héros.
C'est ce qu'on lui reproche.
On aurait pu construire des millions de maisons de retraite sur pilotis. C'est une bonne idée, je trouve.
En général, ils font quoi de leur argent, les gagnants? Est-ce qu'on
Ça, c'est assez stéréotypé. Ils vont acheter à peu près dans l'ordre une maison avec une piscine, une voiture, et ils vont voyager. Et on voit très bien le sens qui est derrière. C'est tout l'imaginaire qui est là. C'est le cocon. Mm-hmm. C'est-à-dire, l'argent va servir à renforcer la famille, va servir à se faire une sécurité, et c'est aussi l'exotisme, l'aventure à travers le voyage.
Récemment, il y a une Américaine qui a gagné, je ne pourrais même plus m'en souvenir tellement, c'est énorme, une somme colossale.
600 millions d'euros.
Ouais. Et elle a décidé dès le lendemain de ne pas retourner au travail. Est-ce que c'est le premier truc qu'on fait quand on gagne?
Alors, une partie des gens. Alors, là aussi.
Je ne sais pas, est-ce que c'est ton lien social?
Non, mais c'est très compliqué.
Vie,
voilà, c'est très compliqué.
C'est
une partie des gens continuent à travailler parce que leur identité, c'est le travail.
Ouais. Ouais. Sauf qu'ils ne sont plus vus de la même manière à la machine à café quand ils ne payent pas
Ils ne sont pas obligés de le dire.
J'ai fait récemment un truc qui était très, très marrant à faire. J'ai analysé toutes les pubs du loto depuis 40 ans, parce que c'était la fête des 40 ans du jeu. Et quand vous regardez la dernière pub depuis 2-3 ans, qu'est-ce que vous voyez? les deux types qui sont là, ils apprennent qu'ils gagnent et ils partent sur leur chaise à travers toute l'entreprise. Ils passent devant notamment un conseil d'administration, ils font comme ça, exactement ça. Ouais. On arrête le boulot. Et il y a un tout petit détail qui m'a plu, c'est qu'ils passent en bas, là où il y a les secrétaires. Et là, il y a comme un signe de connivence. Vous avez les classes sociales. Ouais. Le loto, c'est très, très spécial. Pour moi, c'est un truc assez unique dans beaucoup de phénomènes sociaux. C'est absolument interclasse, c'est absolument intergenre, c'est absolument intergénération, sauf un point. Il n'y a rien sur l'interculturel et les minorités ethniques en France. Je ne sais pas, sauf pour le PMU, parce que j'ai eu une enquête là-dessus par Anne-Claire Mangel, mais je ne sais pas qui joue au loto parmi les gens qui sont d'origine maghrébine, d'origine... Absolument. Ouais. Ça, on ne l'a pas.
On reconnaît là l'anthropologue.
Absolument. Qui sommeille. Oui, moi, ça, j'aime bien voir.
Vous publiez d'ailleurs chez Peter Lang, aux éditions Peter Lang, L'empreinte anthropologique du monde. C'est un livre à paraître. Merci d'avoir.
C'est ce qu'on appelle un livre scientifique, tout à fait. Oui, oui.
Scientifique. Oui, oui, oui. Merci d'avoir.
Qui est lisible, qui est lisible. Ouais,
j'espère. Et on peut comprendre.
On peut le comprendre.
Oui, on comprend. À suivre à 12h10 tout à l'heure, il y aura Tanguy Pastureau. Bonjour, Tanguy. Merci.
Bonjour, Nagui.
Merci de venir nous dire que vous allez parler de qui? De Laurent Wauquiez.
Et oui, Wauquiez, hier, a fait son coming out sur scène. Il a dit, je suis de droite, il n'y a pas de honte à ça, ça n'est pas sale. Papa, maman, désolé, mais jamais je n'irai visiter le siège du PS rue de Solferino, même pour sa vente à la découpe par Stéphane Plaza qui aura lieu bientôt. Wauquiez, c'est l'espoir de la droite qui s'assume et il a l'esprit de conquête d'un bulldozer tchétchène. Si Macron lui propose un poste de ministre, il le démembre. C'est un killer. Rendez-vous à 12h10.
Oui, Tanguy Pastureau sur Inter. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadouboudadi.
Bonjour à tous.
Thomas Wiesel.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Albert Algou. Bonjour. À 12h10, vous retrouverez Tanguy Pastureau.
Bonjour. Oui.
Et vos invités sont Claire Nadeau et Philippe Lelièvre. Folie. Non à l'argent, c'est au Théâtre des Variétés à partir du 22 septembre avec Pascal Légitimus, Julie Debonnat qui accompagne Claire Nadeau et Philippe Lelièvre, nos deux invités. Une pièce qui, où finalement le pitch est dans le titre, hein, un gagnant au loto refuse ou ne va pas retirer ses 162 millions d'euros. À partir de là arrive évidemment tout ce qui peut se passer. D'ailleurs, posez-vous chacun la question de savoir qu'est-ce qui se passerait si dans votre entourage, pas vous, hein, mais dans votre entourage, quelqu'un gagne et refuse d'aller chercher l'argent. Comment vous le vivriez? Mais parce que il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'histoire d'argent, il y a tous les rapports de famille qui sont joués aussi. Le rapport entre époux, potes, le travail, la mère,
famille et les amis.
C'est ça, ça vient tout chambouler.
En fait, nous représentons nous l'argent, enfin, dans la pièce écrite par Flavia. Moi, j'ai le sentiment d'être vraiment l'argent. Puisque j'en ai besoin.
Vous êtes le pote, mais qui fait travailler aussi Richard.
Oui, j'ai du mal à le payer.
Ouais.
Je suis d'ailleurs, il faudrait absolument qu'on décroche des contrats parce que je bosse avec la mairie. Et cette mairie ne me donne pas toujours les contrats parce que c'est toujours un autre type qui rafle tout parce qu'il est beaucoup moins original que lui. C'est-à-dire que la maison sur pilotis pour retraités, c'est moins original qu'une maison de retraite classique. Donc ça nous passe
retoqué.
Souvent sous le nez.
Ouais.
Voilà. Et donc j'ai de plus en plus de mal à le payer et je ne comprends vraiment pas pourquoi il a décidé de pas prendre l'argent. En tout cas, une partie, quoi. Pour qu'on puisse sortir de
et jouer le rôle de la merde. Jouer le rôle d'une mère qui en veut à son fils de ne pas gagner, de pas lui
elle le frappe, mais
elle est violente, hein.
Le couteau électrique, c'est pas mal.
Ah, c'est sa femme, le couteau électrique.
Ouais, mais il est pas loin de vous quand même.
Non, j'aurais pu.
Ouais. Voilà.
Ben oui, elle est déconcertée surtout, et puis à un moment quand même elle se dit, mais il a joué avec les dates de mon mariage, du mariage avec son père. Et donc cet argent n'est pas à lui, en fait.
C'est ça, puisque c'est moi qui suis dans ces dates.
C'est l'argent qui est à son père est mort, donc il me revient. Donc, donc voilà, c'était pas ton argent, c'était le mien.
Quand on joue des personnages comme ça, quand on fait une création, on va chercher les comportements, les clés, les ficelles. On dit souvent, on va chercher dans des émotions personnelles. Mais comme
l'acteur studio, on en parlait tout à l'heure.
Comme ça ne vous est jamais arrivé, vous allez chercher dans quels sont les ressorts qui sont utiles dans ce genre de situation. C'est la jalousie, c'est le mercantilisme, c'est
en tout cas, c'est de vivre le moment présent de la situation. La situation est écrite, on prend un malin plaisir à la jouer. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai aimé ce rôle, parce que je me sens bien dans ce rôle-là. je trouve très agréable et très bien écrit.
Et puis c'est un rôle plus complexe qu'il n'y paraît pour tous les deux, parce que finalement votre personnage, vous, Claire Nadeau, est dans une forme de misère sentimentale. Enfin,
oui,
c'est ça.
Elle est seule.
Oui.
Elle cherche des rencontres.
Elle fait les petites annonces. Elle fait mythique. Elle fait mythique. Elle fait du speed dating. Enfin bon, elle se prend des vestes et
oui,
bien
sûr. Elle se pose des questions sur Étienne aussi.
Elle croque le pote aussi. Parce qu'on n'a jamais vu le. Elle l'a jamais vu avec une femme, donc elle se dit bon bah c'est pas pour moi.
Il a un pantalon saumon.
Et oui.
Finalement pas.
Finalement pas.
Ah pardon.
Mais ça aurait pu. Mais dans le texte. Oui.
Le saumon ne m'allait pas très bien.
Il a refusé.
Mais du saumon sur un lièvre, c'est vraiment d'un mauvais goût.
C'est une tendance qu'il y avait déjà dans Folamanda, un petit peu. Il a des penchants.
J'ai gardé surtout le même prénom, c'est drôle. Quitte Folamanda avec Étienne, voilà. Et je me retrouve avec Étienne, qui est beaucoup
moins homosexuel. C'est le prénom qui veut ça, je crois.
Et il y a plusieurs intrigues, entre guillemets, dans la pièce, plusieurs temps. Le premier temps de l'interrogation, le premier temps de la stupéfaction, et puis un dernier temps aussi du complot.
De la réunification, on se dit...
Et si on le zigouillait, peut-être.
Sans aller jusque-là ouvertement.
Bah, enfin, ouvertement, oui, parce que c'est ce qu'on comprend.
S'il ne veut pas décidément pas aller le chercher, ben, nous, on va y aller. Oui. Parce que, rebondissement merveilleux, dont nous n'allons pas donner le...
Oh, hein,
mais si. C'est possible, parce qu'en fait, il s'est trompé d'un jour.
C'est ça. Et le ticket est toujours là, et voilà. Le ticket est toujours valable. Oui. Donc il peut encore
jusqu'à
aller chercher cet argent.
Jusqu'à minuit, il est 8h30 du soir.
C'est ça, suspense optimal.
Je le régulièrement dans la pièce.
Non à l'argent, c'est au Théâtre des Variétés à partir du 22 septembre. Voici Tanguy Pastureau sur Inter. Tanguy, depuis la défaite de François Fillon, la droite apparaît fracturée.
Oui,
c'est moins qu'on puisse dire.
Ben oui, elle est déchirée, tel Olivier de Kersauzon à Quiberon quand il fait la fermeture du bar Le Menhir Branlant de son pote Gwendal. Alors en fait, il en va des droites comme des testicules, c'est-à-dire qu'il y en a deux. Parfois trois si pendant la grossesse, maman a bu trop de Red Bull. D'un côté, il y a la droite molle, celle de Juppé, le croque-mort bordelais, qui a l'air tristoune même quand il est joisse. C'est le seul à avoir une seule expression en rayon sans avoir claqué son livret A en botox. Si on le met lui dans un film avec Nicole Kidman, il n'y a rien qui bouge. Juppé, Thierry Soler, Pécresse, tous ces gens auraient pu bosser avec Macron, notre sexe symbole. Seulement l'autre a anticipé le décès de Mireille Darc et a pris à la place Édouard Philippe, le grand chauve avec deux chaussures noires. Et de l'autre côté, il y a la droite Viagra, dure pendant 12 heures, pour qui Juppé c'est Trotsky, et qui a compris que Marine Le Pen était hors jeu depuis qu'au débat du second tour, elle a fait la mouette avec les bras, tandis que Macron l'a regardée en se disant « Zut, la seule fois où j'ai tiré une latte d'un joint, ça m'a pas fait la moitié de ça. » Alors le candidat de cette droite qui s'est assume, c'est Laurent Wauquiez, 42 ans, un beau gosse au gland du mocassin qui se touche, et qui se sape en parka rouge de pêcheur de dorade. C'est le fantasme de Georges Pernoud, qui dans ses rêves trempés le fait grimper à la grand voile du Belém à l'aide de deux bâtonnets de Colin sortis du freezer. Alors Wauquiez, c'est ce bel homme aux cheveux poivre et sel, hein, quand il se met à côté de Brice Hortefeux, qui a les cheveux couleur moutarde, on obtient une vinaigrette. Et hier, il a fait un discours exalté. On aurait dit Nolwenn Leroy si quelqu'un lui avait dit du bien de son nouveau single. Il a crié ras-le-bol de s'excuser d'être de droite. Avec moi, c'est le retour de la droite. Il ne jure que par la droite. Quand son GPS lui dit de partir à gauche, il va à droite. Une fois, il a tourné comme ça en rond pendant 48 heures autour de sa maison. Puis, il s'en est pris à Macron, Mélenchon, Le Pen, tout le monde. On aurait dit Yann Moix s'il avait été coaché par Kim Jong-un. CNN a diffusé le discours. Comme traduction anglaise en sous-titre, ils ont écrit « Fuck you all, motherfuckers ».
Et ensuite, donc, Laurent Wauquiez a gravi un mont en Haute-Loire, c'est une tradition.
Presque. Oui, le Mont Mézenc, c'est un truc de politique. Hein. Mitterrand faisait l'ascension de la roche de Solutré, suivi des caméras de télé, donc de Jack Lang. Wauquiez, lui, c'est le Mont Mézenc. 1753 mètres de haut, soit 4 de moins qu'Adriana Carambeu. Si bien qu'une fois au sommet, au type de BFM, on a juste le temps de dire « Bonjour !» avant de convulser sur un tapis humide de crottes de moufette. Hollande lui-même a naguère entrepris l'ascension par l'escalier B de l'immeuble de Julie Gayet. Donc, quand on cartonne en politique, on monte. Hein, ce qui permet de dire que Benoît Hamon fait certainement de la plongée. Hier, Wauquiez s'est donc retrouvé perché là-haut avec Virginie Calmels, une jupéiste qui a donc soutenu Juppé, puis Fillon, le sapeur congolais à face de craie, et qui maintenant rejoint Wauquiez. Hein, elle a plus suivi le sens du vent que la princesse Charlène quand elle essaie de fuir Monaco en planche à voile. Alors comme elle ne fait pas de foot, elle s'est dit jamais le Qatar voudra m'acheter. Hein, je vais passer le reste de ma vie à mater Juppé en me demandant s'il fait la sieste ou s'il est mort. Je me taille. Hein, Wauquiez a 60 ans de moins, donc même si ses chevilles éclatent à cause de son ego, au pire, elle le mettra au feu rouge sur des béquilles avec les roms pour qu'il fasse les pare-brise des gens. Alors Virginie Calmels précise que Juppé a donné son aval hein, pour qu'elle aille chez Wauquiez. En fait, il a cligné de l'œil gauche, elle a pris ça pour un oui, alors qu'il essayait juste de chasser une mouche. Parce que Juppé déteste Wauquiez. Hein, ils sont aussi incompatibles qu'un teckel et un Nietzsche-ni processionnaire. Donc, à mon avis, Calmels lui a dit « Alain, je sors t'acheter de l'auto-bronzant parce que t'as pas l'air bien. » Puis elle est partie et ne reviendra plus jamais à Bordeaux. Alors, Wauquiez lui a déclaré hier dans le JDD, je cite « Ce qui rend fou mes adversaires, c'est que je suis un objet compliqué à attraper. Hein, c'est le premier politique qui se compare à une savonnette. » Donc, dans son intérêt, il vaut mieux pas qu'il fasse de prison. Il est candidat à la présidence des Républicains contre 3-4 anonymes qui ne sont même pas sur Wikipédia. Hein, donc, pour lui, c'est dans la poche. Il va falloir compter sur Wauquiez, le chantre testostéroné de la droite qui en a.
Merci Tanguy Passereau. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Non à l'argent au théâtre des variétés, vous en...
Oui, bah oui. Il est merveilleux.
Il est fort, très fort. Très fort. Et on est ravis qu'il soit dans cette bande originale avec nous tous les jours à 12h10, je le rappelle. Et je le précise toujours aussi, rediffusion sur le site de France Inter, parce que ça va extrêmement vite. Il y a de la vanne au mètre carré, donc il...
Et lui bon aussi a dit non à l'argent, hein, il vient d'RTL.
C'est bon. C'est bon de le réentendre aussi. Non à l'argent, vous en êtes à quelle étape du travail? Est-ce que c'est... Vous êtes sur scène, dans le décor, parce que tout à l'heure vous parliez du travail à table, j'aime bien cette expression à table.
À la table, à la table.
À la table. Après il y a l'italienne, sans intention.
Non, l'italienne c'est quand on sait le texte, c'est ça sera...
Et c'est pas de mal à veille. C'est pas... enfin, en ce qui me concerne. Oui.
Là on est en train de...
On est sur chacun
on est sur l'acte 3.
On
est dans le décor. Ah, les enfants ça, gâtés
oui.
du théâtre.
Déjà,
là, parce que,
oui, j'ai dit. Oui,
c'est incroyable. On a commencé à répéter dans le décor.
15 jours avant.
3 semaines avant.
Ouais, c'est de la chance, ça, parce que c'est pas toujours le cas. Ouais. Non.
C'est le cas de le dire.
D'accord. Et ça change quelque chose? Est-ce que là, d'un coup, on se... je sais pas.
On voit qu'on n'a pas de place pour bouger, c'est ça? Déjà, on dit, bah, tiens, je vais pas faire 3 km, c'est pas la peine, je vais m'arrêter
est-ce
là.
Est-ce qu'on change de texte? Est-ce que ça donne un rythme aussi, le décor? Est-ce
oui,
que ça commande?
Bien sûr. On a répété. Ah bon, on a répété 8 jours dans la soupente du théâtre des variétés. Ouais. Et c'est vrai que tout à coup, quand on est arrivé dans le décor, ça a changé des choses. La porte est plus loin. La sortie à jardin est un petit peu compliquée. Claire a un siège derrière. Elle peut pas sortir du décor. En fait, son angoisse, c'est que le décor est fait de telle manière
qu'on
ne peut pas sortir. On reste sur scène, même quand on sort, donc on est derrière.
Mais vous êtes, voilà. Mais vous êtes sur scène en permanence.
Moi il me vire de temps en temps.
Oui,
non
mais c'est deux.
Personne est un peu âgée. On va la garer. De temps
il y a deux trois minutes.
Deux trois minutes dans
les coulisses. Mais là c'est vrai que c'est un peu bizarre.
Cette pièce c'est à partir du 22 septembre. Non à l'argent au théâtre des variétés. Étienne Daou a un nouveau titre. Nous avons la chance de vous le présenter. C'est tout nouveau. Oui absolument. C'est son nouveau single qui s'appelle Les flocons de l'été. Le nouvel album lui arrivera au mois de novembre et apparaître le 15 octobre. Il y aura également Avant la vague, Étienne Daou, 78-81. Les flocons de l'été, c'est maintenant.
Tout est blanc, tout givré, innocent, tout figé. C'est l'hiver en été. Aveuglant, déchiré, c'est l'hiver changer, c'est l'hiver. En été, tout est blanc, tout givré, survivant, tout flingué, c'est l'hiver. En été, la nuit blanche pourrait durer toute l'éternité. Loin, si loin, à soi-même exilé, sous les flocons de l'été.
Le nouvel album, ça sera en novembre, donc, qui s'appelle Blitz, hein, c'est ça le nouvel album, et ce titre, Les flocons de l'été, la douce voix de velours d'Étienne Dao. Et il y a plusieurs événements autour d'ailleurs de cette actualité d'Étienne Dao, apparaître donc le 15 octobre prochain, Avant la vague, Étienne Dao 78-81, c'est un livre, donc si j'ai bien compris, parce qu'il y a marqué apparaître, mais j'imagine que c'est un livre. C'est ça? C'est pas une compile, c'est pas un DVD, non, c'est un livre.
C'est peut-être lui qui va apparaître.
Et au Philharmonie, à la Philharmonie de Paris, du 5 décembre au 29 avril 2018, une exposition Dao, la personnalité et l'itinéraire musical d'Étienne Dao, inséparable de l'histoire de la French Pop. Tout ça sera évoqué lors de cette exposition Dao et la pop musique à la Philharmonie Paris.
C'est classe, voilà, une comme expo ça. Dao, c'est
chic.
C'est
j'adore ce bonhomme. J'adore
aussi,
ce bonhomme. J'adore. Vous aussi, hein, Claire, m'avez dit pendant que vous l'écoutez. Vous aimez
oui,
bien ce
j'aime
titre
beaucoup.
De oui. Dao. Il y a de la musique
oui, c'est
aussi.
C'est vrai, je l'ai dit.
Il y a de la musique évoquée aussi dans la pièce.
Ne dites pas que ce garçon était fou.
Oui, mais on a coupé le dossier.
Aïe, c'est plus dans la.
C'est parti avec le pantalon saumon.
Non, plus, oui.
Bon, je ne peux plus l'arrêter. Arrêtez-le, ça vous, en régime, parce que moi, je ne peux plus l'arrêter. Donc ça, c'était dans la pièce, mais ça a disparu aussi.
La vanne. Chanteur. Non, même pas la vanne. On est plus parti sur Jonas. Voilà.
Ah. D'accord.
Michel Jonas, de son prénom.
Est-ce qu'il y a encore... Remettez-le moi, là-dessus. Non plus. C'est parti aussi.
C'est dans l'acte 3, tout ça. On est en train de, c'est en train de se construire.
En fait, donc, pour préciser les choses, nous n'avons pas vu la pièce. Étant donné qu'elle ne se jouera qu'à partir du 22 septembre, j'ai lu un texte qui est apparemment et la V1. Et pas donc la V12 que vous êtes en train de répéter.
Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, quand même.
Oui. Argent trop cher, il faut le mettre.
Oui, mais ça va y être. On va insister.
C'est une question de droit.
C'est une question de droit.
Tout est une question de droit. C'est vrai que tout à l'heure, Leïla disait qu'il y avait un fort point commun entre les Tuches aussi dans lesquelles vous jouez, Claire Nadeau, et cette pièce de théâtre Non à l'argent. C'est le loto ou la loterie nationale.
Et oui, parce que toutes les aventures de cette magnifique famille dont je fais partie commencent avec le gain.
Qui reviendront le 7 février prochain.
Ah, vous connaissez la date.
Les Tuches 3, ouais, le 7.
Février, je savais pas. Et enfin, si je savais février, mais pas le 7.
Liberté, égalité, fraternitus.
Je l'ai. Oui, le départ de tout, c'est qu'ils gagnent au loto. Bon, mais eux, ils prennent de l'argent. Hein. Oui, ça change. Et ça change l'extérieur de la vie, mais eux, ça les change pas. Et c'est ça qui est extrêmement sympathique. C'est que c'est les mêmes. Les mêmes, bon, avec des problèmes de ménage. Elle est... Et là, ils vont à l'Élysée. Elle est très embêtée parce qu'elle trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de gaspillage en son palin. Elle trouve qu'une bonne lavette qu'on lave et puis qu'on remet, dont on se resserre. Enfin bon.
On voilà. Va reparler des projets que vous pouvez avoir l'une et l'autre en dehors de cette pièce qui sera à partir du 22 septembre au théâtre des Variétés. Non à l'argent, mais d'abord, voici le rêve de Daniel Morin. Yes.
On attendait ça depuis si longtemps. Ça y est, il est enfin revenu. C'était il y a un peu plus d'une heure sur CNews. Toiletté comme un caniche, parfumé comme une ukrainienne, c'était le comeback de Jean-Marc Morandini. beaucoup. Hier soir, j'ai eu du mal à m'endormir.
T'as regardé ?
Non, pas tout à l'heure, j'étais là, Nagui. Hein. J'ai même...
Ah, c'est aujourd'hui ?
Oui.
Ah, j'ai pas suivi.
J'en ai même rêvé. Dans mon rêve, j'étais assis dans le public de l'émission de Jean-Marc. J'attendais la boule au ventre, les mains moites, le retour du héros, sourcils épilés et au sourire idiot. Quand d'un seul coup, mon cœur se mit à battre la chamade, puis un long frisson coupable parcourut mon échine du croupion à la nuque.
Ah !
Il est rentré dans le studio, majestueux, impérial et tellement sexy. Son regard torve, moitié vicieux, moitié débile, balayait la foule. Un regard qui, pour une raison que j'ignore, s'est arrêté sur moi.
Aïe.
J'étais pétrifié. Le maître m'accordait son attention. J'étais coincé entre deux émotions, l'excitation et la peur. Puis, comble de la consécration, il m'a dit
« Viens par ici ».
Il a rajouté
« Vas-y, bouge un peu pour voir ».
Je me suis exécuté, j'ai évolué dans l'espace imparti, je bougeais de façon décontractée, mais intéressante.
« Bouge plus lentement maintenant
!» m'ordonna l'animateur au regard de raton laveur. Obéissant à la musique qui trottait dans ma tête, c'est un déhanché chaloupé qui prit possession de moi. De façon alanguie, je traversais le studio, les yeux mi-clos, je jetais des regards ambigus à mon maître.
« Vas-y, mets-toi en slip et séduis-moi
!» m'intima le producteur Bonobo, tout en sortant une caméra. J'ai senti comme un dédoublement de personnalité. La schizophrénie m'assaillait de toutes parts. Telle une petite souillon de télé-réalité, j'ondulais sauvagement une vraie Zaya devant une liasse de 10 000 euros. Visiblement content de ma performance, Jean-Marc se dévêtit à son tour, ne conservant qu'un petit string en papier crépon. Le front humide de désir, il se crispa et m'ordonna de tout lâcher.
« Vas-y, tu es ma catin, sois encore plus sale !»
Oh, j'étais comme un fou, comme possédé. Par le vice, j'étais à mi-chemin entre Dominique Strauss-Kahn et Denis Baupin. J'étais en nage, je poussais des cris de bête. On aurait dit Jean-Luc Léa, jour de rentrée des classes. Je rampais sur la table, je tortillais autour des tabourets. Mi-homme, mi-serpent, j'étais devenu l'homme cochonne. Jean-Marc, qui bavait comme un crapaud buffle, me suivait, caméra sur l'épaule, en marmonnant.
C'est bien, continue, vas-y. Maintenant, fais la pom-pom girl, petit salaud.
Oh, désolé. Pas la pom-pom girl. Je suis un mec facile peut-être, mais pas la pom-pom girl. Je trouve ça vulgaire et dégradant. Alors, pourquoi ce rêve intrigant ? Pour trouver des éléments de réponse, j'ai été voir mon maître à penser. Bonjour maître.
Bonjour Daniel.
Maître, la nuit dernière, j'ai rêvé que je posais pour Jean-Marc Morandini.
C'est un ami.
Oui, je m'en doute, mais je me demandais ce que ça pouvait bien signifier.
Mais enfin, c'est clair, il me semble.
Ah ben non, pas pour moi en tout cas.
Mais ça veut dire que tu es fin prêt pour te lancer dans le cinéma, le grand cinéma d'auteur, le cinéma qui a du fond, de la poésie et de l'audace.
Vous voulez dire les films de cul pas cher tournés à l'arrache pour le compte d'un pervers qui abuse de sa situation médiatique dominante pour obliger à faire ce qu'un semblant de morale nous défendait encore ?
Exactement.
Mais c'est dégoûtant.
Oui, mais c'est bon.
Enfin, maître, on voit bien que vous n'avez jamais participé en rêve ou in vivo à des séances aussi lascives que porno dégradantes comme je l'ai fait la nuit dernière.
Mais détrompe-toi, je traîne souvent dans les coulisses de Taratata.
C'est pire que ce que j'imaginais.
Pire encore.
Oh, taisez-vous. Sinon, à part ça, Nagui, la nuit fut bonne. Merci.
Ouais, c'est demain. Ça. Et merci à toi.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Donc le 7 février prochain, vous serez à l'affiche des Tuches 3, Claire Nadeau. Et puis vous avez également tourné dans le film de Gilles Lellouche. Votre copain aussi, Philippe.
Gilles, non, Philippe.
Ah, c'est Philippe, oui d'accord.
C'est son
famille,
frère.
La grande famille, c'est ça. Vous avez joué dans Le Grand Bain, aux côtés de Benoît Poulvord, Léla Becti, Jean-Luc Anglade, Guillaume Canet, Mathieu Amalric, Marina Foïs, Philippe Catherine, Virginie Efira, un casting de dingue.
De dingue,
et vous faites de la natation synchronisée aussi ?
Non.
Parce que c'est ça, hein, le thème.
Mais oui, le thème, c'est une bande d'hommes qui font la natation synchronisée. D'hommes plus tout à fait jeunes, ce ne sont plus des jeunes gens. Enfin bon, non, moi je joue la maman de Guillaume Canet. J'ai encore
très
un
bien.
Fils, encore
très
un fils,
bien,
pas mal du tout,
bien.
Hein, c'est très agréable. Mais c'est difficile, quoi.
Et quelques projets en vue pour vous, Philippe?
Je vais mettre en scène les 5 de cœur, qui sont des chanteurs a cappella.
Et je vais. C'est super.
J'ai
vu leur précédent spectacle.
Magnifique, vraiment, très bien. Et je vais commencer la saison 3 de La Stagiaire. avec Michel Bernier.
Michel Bernier sur, France 3.
Sur France 3. Ouais,
énorme succès. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oh, des excuses, mais plein d'excuses. Désolé déjà pour la mythique Claudine Choucard qui a appris ce matin que le rôle interprété par Claire Nadeau avait été écrit pour elle. Ah, mais le chômage, je suis pas plus mal non plus. Désolé pour Madame Guy, la femme de Monsieur Nagui, qui a découvert ce matin que son mari n'était pas qu'un animateur vedette, mais aussi historien de la plémette. Ah ouais, il a tous les talents, votre mari.
Elle le sait, t'inquiète.
Et désolé enfin pour Leïla, la grande prêtresse du JT de France 2, qui a découvert que sa carrière d'intervieweuse avait commencé à décliner sur Inter vers 11h38 ce matin avec ses questions sur la Torre Studio et sur l'alcoolisme de Claire Nadeau. Pas de panique,
c'est pas moi, l'alcoolisme de Claire Nadeau.
Pas de panique. Sylvio, qui est un ami, m'a appelé. Il te propose un poste sur Bunga. Bunga,
Radio. Avec plaisir.
À partir du 22 septembre, non à l'argent au Théâtre des Variétés. Merci, Carnado. Merci, Philippe Lièvre, d'avoir été pour l'invité.
La bande, c'est génial.
Demain, nous parlerons de Témoins d'un doute avec François Damiens,